CFM.
CFM.
À qui le tour?
17h30, 19h.
CFM.
Et vous reconnaissez ce petit générique-ci, tiré de la bande originale du film. Attention.
Pulp Fiction,
bravo Florian qui a coiffé sur le poteau. David,
il suffit à voir.
Deux critiques ciné, auditeurs de CFM qui nous ont rejoints aujourd'hui. Avec Aurélien, on va vous lire, peut-être pas toutes, hein, parce qu'il y a 14 critiques de films qui sont tombées dans
peut-être même 16.
La box du site cfmradio.fr. Et puis ensuite, on passera un coup de fil à Marc de la Ménardie et à l'organisatrice du festival Les Hivernales du documentaire. Ouais, d'accord. Béatrice Samiel qui sera avec nous aussi pour nous donner le programme de ce week-end. Allez, on commence par
Hunger Games. C'est Manu qui est allé voir ce film-là. Oula, visiblement. Ah ouais.
Oula.
Dirions-nous gentil arnaque ou grosse daube? Elle pose la question. Aucune action, aucune émotion. Pla. Comment sommes-nous aussi bêtes pour se laisser embarquer dans ce commerce entre guillemets de films qui produit épisode après épisode? Ah, je m'en veux. Manu s'en veut et donc elle a mis 1 sur 5.
Elle a écrit ARG avec au moins 10 H derrière. Voilà.
C'est mon signe.
Ça lui a pas plu.
Ça lui a pas plu. Vous l'avez vu, vous, Hunger Games?
Non.
Non, ça me tente pas trop.
Je ne comprends pas pourquoi elle y est allée.
Bah, écoute, moi j'y suis allé aussi, mais c'est vrai que là, des fois, tu regrettes de pas avoir 12 ans pour tout comprendre. Quoi. La French, à la fois film exigeant et œuvre populaire, ce thriller vous emporte pendant plus de 2 heures dans un Marseille remarquablement reconstitué des années 70. Superbe confrontation entre Dujardin et Lelouch, parfait, charismatique. L'intrigue est intéressante, la mise en scène sobre, excellent film de gangster, rien à redire, sauf peut-être. Et quelques petites longueurs passagères, mais bon, ne visons pas la perfection. 4 sur 5, et c'est encore Manu de Castelsarrasin qui est allé voir La French.
Omer Munch de Rodez, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Des Chevaliers du Fiel, je connaissais essentiellement les multiples rediffusions des spectacles sur la chaîne de la TNT avec Repas de famille de PH Pierre-Henri, peut-être Salfati. J'espérais, si ce n'est rire aux éclats, au moins sourire. C'est vrai que certains gags et jeux de mots répétés font sourire, mais à force cela peut devenir fatigant. Ce film n'est ni excellent ni complètement nul, il est tout simplement pas extra. Le scénario est lent, il donne un peu l'impression d'une suite de sketchs, ce n'est pas très drôle et la fin est même assez laborieuse. Dans ce film, les chevaliers reprennent tels quels des personnages de leur spectacle, mais les clichés apparaissent bien plus lourds à l'écran. En fait, si vous n'aimez pas Les Chevaliers du Fiel, il faut mieux éviter ce film. Par contre, si vous voulez décompresser sans trop réfléchir, alors allez-y.
Allez, tant que vous avez encore l'esprit,
2 sur 5.
La critique de Manu de La French, on va passer à celle d'Eridan, qui est ici avec nous en studio.
Cher en os.
C'est Florian. Alors, tu es allé voir La French?
Je suis allé voir La French et c'est pareil, j'écris un truc assez long donc je vais faire les grandis.
J'aime bien parce qu'il s'en rend compte quand il vient ici.
C'est déjà pas mal.
Non, parce que je regardais, je faisais, oula, il est déjà 18h05. Mais je suis d'accord avec Manu au niveau de la note, puisque j'ai mis 4 sur 5 aussi. Moi j'étais très content d'avoir ce film parce que je connaissais pas trop l'histoire de La French Connection, puisque j'étais pas né. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir ce trafic de drogue mondial, puisque c'est entre Marseille et les États-Unis. Et effectivement, là où je rejoins Manu, c'est que le duo Dujardin-Lelouch, il est parfait. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à la réalisation de Cédric Jiménez, qui est un jeune réalisateur qui a notamment passé 4 ans aux États-Unis. Ça m'a rappelé beaucoup des références, comme par exemple Hit de Michael Mann, où là c'était une opposition Al Pacino, Robert De Niro. Bah, je les mets au même niveau, Gilles Lelouch et Jean Dujardin, donc c'est pas rien. Et je trouve aussi que j'étais assez étonné, finalement, j'ai fait quelques recherches, qu'il n'y ait pas eu finalement de film sur La French avant, sur La French Connection, parce que c'est, enfin, pour moi, il y a tous les ingrédients, quoi. Il y a la corruption, les flics, les voyous, des règlements de compte en pagaille, et c'est très bien. J'ai pas trouvé de longueur, moi, personnellement.
Il y en a eu des films sur La French Connection. D'ailleurs,
des films américains, ouais, mais pas des films français. Et pas centré sur le personnage du juge Michel, qui est un personnage très touchant et quelqu'un qui a révolutionné, je pense, la magistrature, notamment dans une ville comme Marseille, qui est bien connue pour ne pas être du tout corrompue.
On comprend, ouais, non mais voilà, et là on voit bien l'implication, la corruption des politiques, de la police, de tout le monde.
Ça va très loin.
Et on voit pourquoi ce film ne sort que maintenant, parce qu'il suscite bien des interrogations pour beaucoup. Beaucoup de politiques qui sont peut-être encore pas tout à fait morts, hein. Donc et c'est vrai que le Louche, il est extraordinaire. Moi, je le voyais pas du tout dans ce rôle-là, et en 3 secondes et demie, ça y est, c'est lui le méchant, et tu comprends pourquoi. Parce qu'il a, il a cette bonne gueule là. Il est
le mafioso italien immigré, ça lui colle parfaitement à la peau.
Et puis voilà, ensuite, ouais, voilà, au fur et à mesure, il devient poisseux quand même. Hein,
je crois pas qu'il ait fait des navets, le Louche, et qu'il ait participé à des navets, honnêtement.
Oh si, ils ont fait un navet à deux avec du jardin, là, le truc où ils n'arrêtent pas de baiser.
Infidèle.
Ouais, c'est
naze. Ah,
infidèle.
C'est
naze. La suite.
C'est la fée qui nous dit bonjour. À l'approche des fêtes, je vais vous parler du film Paddington. C'était mignon. Pour les enfants, c'est léger. Paddington est attachant. On est loin de la qualité des Disney ou Pixar. Ça m'a un peu fait penser à Stuart Little. En moins bien, sinon, jeu d'acteur juste et effets spéciaux numériques incroyables. À voir pour les petits. Et donc, elle y met 2 sur 5.
M. Turner, je me demande.
Je veux pas dire son nom.
C'est quoi le prénom? C'est un Monsieur Turner ou Michel Turner?
Non mais c'est le nom du film. Hein.
Ouais.
C'est Mr. Turner, c'est William Turner, peintre anglais.
C'est ça.
Mon peintre préféré d'ailleurs.
C'est vrai?
Oui.
Je me demandais quel était son prénom. C'est pour ça que j'hésitais.
Donc je parlais du prénom de celui qui nous a laissé la critique.
Ouais, moi j'avais compris ça.
Non, celui qui nous a laissé la critique, c'est C Y. 312.
C'est elle d'ailleurs.
C'est elle. Elle est de Rodas, hein,
ouais,
je crois.
Ouais, ouais.
Donc, Monsieur Turner, film sur les 25 dernières années du peintre britannique Turner. Les premières images sont majestueuses, nous dit-elle, et la lumière sublime. Peu de mots et de communication dans ce film. Le spectateur devine que Monsieur Turner voyage beaucoup et qu'il s'inspire de ses voyages dans ses peintures. Les relations entre les personnages sont inégales. Celle du peintre et de son père est particulièrement touchante. En revanche, celle entre la servante et le peintre est cruel, voire pathétique. C'est un film qui peut paraître trop long. Certaines discussions de ce milieu du 19e siècle peuvent nous échapper, mais il faut se laisser happer par les moments rares dédiés à la peinture et au génie de William Turner. 3 sur 5 pour CY312.
Paddington l'a fait avec mis 2, et là on a Chab Family, de Rodez aussi. Lui met 3 sur 5. Le film Paddington, film très sympa, effrayé, bon moment de détente en famille. Mon fils de 6 ans n'a malheureusement pas tout compris quand même, mais lui il a passé un bon moment. 3 sur 5. Ça c'est du rapide.
Ça c'est du rapide, c'est de l'expédié.
Efficace.
Un autre rapide, Fury de José Maria. Non, de Louloute, pardon. Enfin, un film qui nous montre la guerre sous un autre angle. J'ai beaucoup apprécié regarder ce film chargé en émotions. Suivre ces soldats qui n'ont plus rien à perdre est réellement bouleversant. 5 sur 5. Envoyer, c'est pesé. Ah, ça, c'est de la critique.
José Maria, on y va avec le film Les Héritiers, du coup.
Ouais, vas-y.
Donc, qu'est-ce qu'elle nous en
on
dit,
y va
José
sur les
Maria.
Courses, là, comme on n'a pas le temps.
Très bon film qui relate la vie d'une enseignante qui ne baisse pas les bras et qui parvient à intéresser les élèves, qui se passionnent de plus en plus pour le projet, apprennent à chercher, pardon, à écouter et aussi à s'écouter les uns les autres. Mais néanmoins, c'eût été plus intéressant d'échapper à l'aspect professoral du sujet, et de ce fait, ce serait senti concerner un public plus nombreux. Eh ben merci José Maria, 4 sur 5 pour Les Héritiers.
Interstellar, on est allé le voir et on en a parlé tous, je crois, à ce micro.
On l'a un peu spoilé d'ailleurs.
On l'a complètement spoilé.
Ah, bravo, bravo.
Ouais,
regarde, moi, quand je savais que vous l'avez spoilé, j'ai fait une critique spéciale parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé des clins d'œil géniaux dans ce film. Alors, par exemple, déjà, on est déjà au courant que c'est Christopher Nolan qui réalise le film et que c'est un Batman, puisque dans le film, il y a clairement, à un moment donné, une Batcave. Hein, il la sort clairement, comme ça, hop, une Batcave. Je sais pas si vous y avez vu, si vous avez vu le truc. Bon, il y a une Batcave dans le film.
Y a
ça va...
Batcave,
ah ouais, il y a la Batcave, je te jure.
Mais oui, c'est
énorme.
Vrai.
Ben
mais
oui, c'est énorme. C'est énorme.
Mais bien sûr, sans spoiler la fin, il y a une Batcave.
Il y a une Batcave, c'est
absolument
incroyable.
Absolument. Elle n'est pas
après,
peinte en noir.
Après, ils sont
trois.
Il y a un scientifique tout seul. Il y a la nana toute seule et il y a le type toute seule. Et ils construisent, ils vont sauver l'humanité à trois. Bon, ça, côté Batman qui revient. Ensuite, quand même, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont appelé le vaisseau Endurance. Alors là, je ne sais pas si vous savez pourquoi ils l'ont appelé Endurance.
Non.
Ah! Eh bien, Endurance est une des plus belles, voire c'est une légende de l'Antarctique, vu que c'est une mission anglaise qui est carrément une odyssée à réussir. Ils ont fait, c'est légendaire si tu veux, c'est un vaisseau, c'est donc une mission où ils ont réussi à survivre malgré qu'ils aient tout perdu, qu'ils
auraient dû mourir. C'est le bateau qui s'est retrouvé coincé dans les glaces au pôle Nord.
Ils sont restés 22 mois bloqués et le capitaine donc Shackleton arrive à ramener quand même tout le monde à bon port.
C'est-à-dire il y en a un qui est parti tout seul et il est revenu les chercher.
À l'île de la Baleine, ils se sont posés là, ils ont attendu. C'est eux-mêmes qui sont allés chercher, c'est un truc de fou. Donc déjà, ils ont choisi l'Endurance pour le vaisseau, je trouve ça très très bien.
Belle référence.
Ensuite, on peut dire que le film est basé sur la recherche du Graal aussi, parce que résoudre l'extrêmement petit avec l'extrêmement grand, bon... C'était assez facile ça. Ensuite, il y a même un petit clin d'œil à Rabelais. Alors, est-ce que vous avez vu le clin d'œil à Rabelais? Gargantua, à un moment donné. Gargantua, il y est dans le film.
Ah, le nom du truc. Bravo.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'en ai noté
pour
plein d'autres. Et oui, c'est ça.
C'est pas illogique.
Nos Américains sont venus nous prendre notre Rabelais, quand même. C'est quand même beau, faut le souligner.
Il y a plein de références littéraires pendant le film. Il y a des citations, il y a des choses comme ça.
Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Après, sinon, c'est un très bon film. Moi, étant un peu astronome amateur, c'est plutôt le côté psychologique, moi, qui m'a plu, voire sociologique. C'est humain, complètement. J'ai trouvé ça, la relation père-fille m'a semblé plus que... Ça reflète bien la société d'aujourd'hui, où d'un côté, on a un père qui est très maternant et qui va finalement abandonner sa fille. Enfin, je veux dire, tu vois, des scissions comme ça, on va dire, des clivages assez énormes.
Ouais. Et le fait, on a eu une grande discussion, on va pas la refaire ici, mais on a eu une grande discussion sur le fait que ça tient pas debout, parce que un film comme ça doit tenir sur des détails et que ces détails doivent être plausibles. Et là, il y a quand même deux, trois détails qui sont pas plausibles du tout, quoi.
Non, mais le problème, c'est que nos amis américains savent faire de très bons films, le sujet est excellent, je veux dire. Niveau scientifique, ça peut tenir la route, puisque dans un trou noir s'effondre tout ce qu'on peut appeler réalité.
Mais ça oui. Mais d'accord. C'est les détails. Après, je te parle des détails. Petite horloge.
Il va recommencer.
Allez, la suite. Combien tu lui donnes au fait? 1, 2, 3, 4, 5.
4, allez.
Manu est allé voir Favelas, histoire de misère, corruption, exaction et scandale politique vu à travers le parcours de trois jeunes noyés dans la pauvreté des favelas. Bien que manquant parfois de réalisme, le sujet traité est bien maîtrisé, les trois héros sont touchants. Très belle histoire d'amitié sur fond de thriller, très belle morale à la fin du film. Belle surprise, 3 sur 5 pour Favelas.
On retourne du côté de Rodez où 6-30-312 est allé voir The Search, film très surprenant par sa façon de nous faire vivre la guerre de Tchétchénie de trois points de vue différents. Le jeune garçon est d'une grande justesse, de même que le jeune homme qui devient soldat et dont la vie bascule à quelques secondes près. Petit bémol sur la partie avec Bérénice Bejo, un peu trop facile et manichéenne. C'est un film qu'il faut absolument voir en VO, ce qui lui donne une dimension supplémentaire. C'est un film dont on ressort pas sans sentiment d'avoir été des êtres si lointains de ces conflits qui pourtant sont aux portes de l'Europe. Le réalisateur a trouvé des acteurs extrêmement puissants, sûrement parce que la plupart ne sont pas des professionnels. 4 sur 5 pour 6-312 sur The Search.
J'ai oublié un clin d'œil, je peux pas, je suis obligé de le dire. Est-ce que vous avez vu le clin d'œil de 2001 Odyssée de l'espace dans le film?
Bah oui, mais tout le film est un clin d'œil à 2001 Odyssée de l'espace.
Ah, mais particulièrement
le robot.
Bravo, le film.
Bande de filles, film ou documentaire, Manu se pose la question, l'histoire d'une jeune fille africaine vivant dans une cité perdue entre la famille, l'école, la rue, la bande. Même si les comédiennes non pro sont bluffantes, cette bande-là n'a aucune intelligence morale et éthique. D'accord, elles vivent l'injustice sociale, la médiocrité, la domination des grands frères, mais où est la promotion culturelle? C'est parfois joyeux et douloureux, vrai et injuste, mais il manque un je ne sais quoi pour nous amener avec cette bande-là. Donc, elle a été plutôt déçue. Elle y a mis 2 sur 5.
On n'aura pas le temps de vous lire, peut-être la prochaine fois, du coup, la critique d'Homer Munch sur...
The
Search également. Mais on va laisser le temps à Florian de nous livrer sa critique de film sur un film qu'il est allé voir tout seul, sur une projection privée. Monsieur est un vénard.
J'étais pas tout seul dans la salle, je tiens à préciser. Mais oui, j'ai eu la chance d'être...
Qu'est-ce que tu veux dire par la projection privée, pas tout seul?
Aïe,
j'étais avec ma compagne, mais il y avait d'autres personnes dans la salle.
Oh là,
arrête-toi.
Ah, mais ça existe encore des cinémas comme ça?
Et en plus, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Non, stop. On n'en dira pas plus. Donc, on est allé voir le Hobbit, la bataille des cinq armées. Donc, on a été des petits vénards, puisqu'effectivement, c'était un jour avant tout le monde. Et pour la petite histoire, on nous a interdit de sortir nos portables, ne serait-ce que pour envoyer un texto, puisque la Warner qui produit le film, c'était voulait à tout prix qu'il n'y ait aucune image qui filtre. Et donc, dans tous les cinémas qui sont en avant-première, tu n'as pas le droit. Et il y a même une personne qui, comme quand t'es dans un concours, qu'il y a un mec qui passe entre les rangées, il y a un gars qui contrôle que tu ne sortes pas ton portable. Et sinon, tu te fais virer de la salle. Donc c'était.
Donc on mettra les images sur cfmradio.fr.
Voilà, bravo, je me suis débrouillé, c'est bon.
Image de générique.
J'ai tout ce qu'il
faut. On a des bancs ici.
J'ai la fin.
Enchaîne parce qu'on a.
Pardon. Donc alors rapidement voilà c'est la deuxième fois que Peter Jackson s'attaque à une trilogie pardon de J.R. Tolkien. Donc la première fois c'était le Seigneur des Anneaux, maintenant c'est le Hobbit. Et donc on peut se permettre un petit comparatif. Alors c'est un film donc là c'est le dernier volet. C'est un film qui démarre très très bien. Avec une scène que j'ai trouvée personnellement magistrale, qui met en scène un dragon qui attaque un village. Et le petit problème, c'est que c'est à partir de ce moment-là que le film s'essouffle. Donc c'est un petit peu tôt, puisque c'est le début du film. Et c'est d'autant plus étonnant que Peter Jackson, c'est un réalisateur qui d'habitude est patient et qui prend le temps de créer son intrigue, alors que là, il a tendance à vraiment totalement l'éluder et même à sacrifier certains personnages qui du coup manquent d'épaisseur et auraient mérité une bien meilleure exposition. Alors je pense que la raison, c'est peut-être la bataille finale qui dure près de 45 minutes et qu'il a vraiment envie de présenter très rapidement aux spectateurs. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un, Peter Jackson, qui est très très bon dans l'exercice, qui est capable de magnifier l'horreur d'un combat à mort, et il faut reconnaître que ces scènes de guerre nous tiennent en haleine, mais qu'elles n'atteignent pas la dimension tragique et émotionnelle du Seigneur des Anneaux. Et leur succession est même un peu répétitive et ça pourra en lasser certains. Alors, ceci étant, la bataille des cinq armées reste un film plutôt réussi et captivant, mais c'est vrai que de Peter Jackson, on est en droit d'atteindre l'excellence, et c'est pour ça que j'ai mis 3,5
sur 5. 3,5 sur 5 pour Le Hobbit, je crois que c'est le dernier, hein, c'est le dernier épisode,
c'est
mais on n'aura pas
d'autre. C'est le dernier volet, oui.
Parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait des problèmes de droits après. La famille veut pas qui a les droits du reste du comment ça s'appelle le Hobbit, enfin le Bilbon le Hobbit,
le saké,
Bilbon
le saké,
ouais, enfin,
mais c'est ça c'est l'histoire.
Et moi je suis pour
qu'il s'arrête.
Ouais, mais c'est si tu veux, il y a tout, c'est pas qu'une trilogie, il y a toute une toute
oui,
une
bah
œuvre
après,
de
t'as
Tolkien.
Tout un univers que tu peux. Mais du coup, maintenant, tu peux enchaîner, puisqu'en fait, c'est une sorte de préquel, on va dire, puisque ça se passe avant les événements du Seigneur des Anneaux. Donc, si tu veux, tu peux enchaîner la trilogie du Hobbit et la trilogie des Seigneurs des Anneaux et te faire approximativement 14 heures de film d'affilée.
Ouais. Et puis, alors normalement, t'enchaînes avec Interstellar pour basculer sur la Guerre des Étoiles. Et là, t'es pas mal sur les 6 de la Guerre des Étoiles.
Ah bah,
là, tu
m'as fait mal. Week-end.
Hein?
Ce week-end, c'est jouable.
on s'arrête là pour les critiques de films, un petit peu de pub, et puis on va s'intéresser au Festival des Hivernales du Documentaire dans un instant.